A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Ça se dispute avec Gilles William Golnadel ce vendredi soir. Bonsoir William. Vous allez bien ?
Oui.
Il est de retour. Mais il nous a regardé.
Il a eu un super coiffeur.
Ah ben, magnifique.
Oh, c'est pas la peine
de me charrier. Vous êtes élégant.
Je souffre suffisamment comme ça.
Vous êtes très beau.
C'est pas très charitable de votre part.
Ça vous va bien, ça vous va bien.
Non, mais le temps travaille pour moi. Dans 15 jours, tout ira bien.
Il y a peut-être une pointe de jalousie, on sait jamais.
Oui, ça c'est vrai.
Il me plaît, le pensée.
Julien Drey, vous allez voir, on a une thématique parce qu'on va parler de la grève SNCF, bien évidemment. Vous savez pas ce qu'il pense, William Golnadel, Julien Drey.
Oh, je devine un peu quand même.
Bon, oula, je suis pas sûr. Là, vous allez tomber de votre chaise. Heureusement que vraiment, faites attention.
Je suis pas un sphinx, hein.
Oui, non, mais je vous ai entendu dans l'heure des pros hier. Oui. Je me suis dit, incroyable. Donc je ne dis rien. Surprise. On va voir ce que William Golnadel pense des grèves.
C'est pas nouveau. Hein.
Et on verra la réponse de Julien Drey. Mais avant cela, on fait le point sur l'information et on va aller sur le terrain parce qu'il y a un camp de migrants devant le Conseil d'État. 300 migrants qui se sont installés là cet après-midi. Le point sur l'info d'abord.
Il y a de l'espace.
Dans le Vaucluse, les corps de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur. La mère de famille de 41 ans a été arrêtée et placée en garde à vue. Une enquête préliminaire a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Près de 1500 victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique se sont adressées aux deux commissions de réparation depuis un an. Un nombre peu élevé qui interpelle leurs responsables. Cette structure a été créée après le rapport choc de la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église depuis 1950. Et c'est l'événement de ce week-end, J-2 avant les huitièmes de finale et le match entre la France et la Pologne. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois en Coupe du Monde en 1982. Leur dernier match remonte à 2011 avec une victoire de la France 1-0. Les hommes de Didier Deschamps sont favoris pour le moment mais rien n'est encore joué. Résultat dimanche à 16h.
Et on le débriefera dimanche ensemble, cher Julien, bien évidemment, quelques mots sur l'équipe de France. Allez les Bleus, un camp de migrants. Voilà le premier thème. Devant le Conseil d'État, en plein cœur de la capitale, cette nouvelle action a été orchestrée par l'association Utopia. Alors, qui sont ces migrants? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes migrants dont on parlait il y a 2 semaines qui étaient à Ivry-sur-Seine. Ils n'ont pas été reconnus par la justice comme mineurs isolés. Ils ont donc décidé de protester devant le Conseil d'État. Ils ont mis donc les campements et les tentes devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale. On est vraiment juste à côté du Louvre. On va rejoindre notre envoyé spécial sur place, Mathieu Rio. Merci d'être avec nous. Très rapidement, Mathieu, ça fait depuis 14 heures que ces tentes ont été installées en plein cœur de Paris. Quelle est la situation autour de vous, Mathieu ?
Eh bien, regardez, comme vous l'avez dit, les tentes ont été installées et là, les jeunes migrants viennent d'enfiler leur couverture de survie puisque le froid commence à se faire très dur ici sur cette place juste en face du Conseil de l'État. Alors, qui sont ces migrants? Vous l'avez dit, ils viennent du camp d'Ivry-sur-Seine à quelques kilomètres d'ici. Ils sont accompagnés par des militants et des responsables de différentes associations comme Utopia 56, Médecins sans frontières ou encore Médecins du Monde. Donc vous le voyez avec leur couverture, il y a aussi un important cordon de sécurité autour avec des forces de gendarmerie et de police. Alors ce qu'ils demandent ici, ce que demandent les associations, eh bien, c'est qu'ils soient hébergés urgemment puisque comme vous l'avez dit Elliot, eh bien, comme ils n'ont pas été reconnus mineurs par les services départementaux d'Île-de-France, eh bien, pour l'instant ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne disposent pas de la protection qui est dédiée aux mineurs non accompagnés. Et en attendant eh bien, que leur recours soit étudié auprès du juge des enfants, eh bien, ils sont à la rue ici.
Merci beaucoup Mathieu Rio. On va rester sur vos images bien évidemment, c'est pas rien. Un nouveau camp de migrants installé en plein cœur de la capitale. Donc 300 migrants à peu près. Des personnes, la justice dans un premier temps a dit non, ils ne sont pas mineurs. Recours, vous en pensez quoi? Gilles William Golnadel.
Ah, j'en pense que ce sont apparemment des faux mineurs, des gens qui se font passer pour des mineurs alors qu'ils ne le sont pas. J'en pense que la notion de clandestin est tournée en ridicule puisque non seulement ils ne sont pas clandestins, mais ils se montrent. Donc ça montre à quel point ils ont un profond et justifié sentiment d'impunité. J'en pense qu'ils agissent avec la complicité de fausses d'organisations qui se prétendent proches des droits de l'homme, mais qui ne se préoccupent pas beaucoup du sort des Français. Et puis j'en pense, que voulez-vous que j'en pense de plus ? J'en pense que dans un état de droit, oui, c'est peut-être le principal. Je pense que dans un état de droit qui se respecte et qui respectera encore les citoyens à qui il doit protection, on ne pourrait pas tolérer plus d'une heure que des gens, donc des irréguliers, campent devant le symbole même de la justice administrative française. Donc ça montre à quel point nous sommes nus.
On est nus, Julien Drey, quand on voit ces images. Alors que la justice a dit, dans un premier temps, il y a eu une première voie de recours. Ils ont dit non, ils ne sont pas mineurs, ils sont peut-être isolés, mais ils ne sont pas mineurs.
Moi, je pense que les habitants du quartier du Conseil d'État ont de la chance parce que le camp ne va pas rester très longtemps.
C'était ma question suivante.
D'après moi.
Piquer la deuxième question. Mais ça, c'est très intéressant.
À l'inverse de ce qui se passe ailleurs,
bien sûr,
malheureusement.
Vous avez piqué
après,
ma deuxième
provocation. Certainement qu'il y a un certain nombre de militants qui leur ont soufflé, militants expérimentés qui leur ont soufflé cette provocation, mais qui met en évidence la faillite de notre dispositif qui est plus au point, qui effectivement est détourné. Et on sent bien que depuis plusieurs semaines, il y a des offensives en règle parce que le gouvernement a manifesté une volonté de reprendre en main les choses et qu'on veut essayer de paralyser l'offensive du gouvernement. Et je pense que ça fait du tort à toutes les populations d'origine étrangère qui sont présentes sur le territoire en situation régulière parce que ça désigne à la vindicte populaire à nouveau ces gens-là alors qu'ils sont pour rien et que là, on est dans la provocation.
Vous parliez des associations, Julien Drey, Médecins sans frontières, Utopia 56, Médecins du Monde. C'est pas la première fois qu'on voit ces images. Je me souviens qu'à l'été 2021, ils avaient investi la place des Vosges. Ces associations, on leur dit quoi, Gilles-William Golnadel ?
On leur dit que c'était des associations autrefois parfaitement respectables. Médecins sans frontières, c'était quelque chose. Mais comme beaucoup d'associations, je pense à Greenpeace, je pense à Amnesty International, où il y aurait beaucoup à dire aussi, elles ont été investies par l'extrême gauche et aujourd'hui elles sont complices, très souvent, objectivement ou subjectivement, des passeurs.
Un mot sur ces associations ?
Non, mais les associations, d'un certain point de vue, c'est leur droit. Elles considèrent qu'il faut ouvrir les frontières, qu'il faut accueillir tout le monde. Elles sont dans leur logique à elles. C'est à nous de faire respecter la loi. Je veux dire, c'est pas les associations qui sont coupables aujourd'hui. Parce que c'est simplement que les gouvernements ont laissé faire un certain nombre de choses, ont passé l'éponge sur un certain nombre de choses, ont légalisé discrètement un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et maintenant, ben voilà. Alors après, dans ces associations, qu'il y en ait qui cherchent l'affrontement avec l'État, parce que c'est le summum du combat, c'est possible. Mais je pense pas la question, c'est pas les associations. La question, c'est le dispositif qu'on met en place pour empêcher que cela se passe.
Bah, pas les associations, c'est quand même ces associations, je pense, qui ont trouvé le lieu. Évidemment, la symbolique. Pour ce qui est du matériel, peut-être que ce sont aussi les associations qui viennent en aide à ces migrants qui s'installent avec ces tentes.
Si vous me
permettez,
il faut faire attention. Il ne faut pas prendre les populations qui sont là simplement comme des masses de manœuvre. Malheureusement, il y a toute une minorité dans ces populations d'origine étrangère qui connaissent parfaitement nos lois, qui connaissent parfaitement notre système et qui sont là, évidemment, parce qu'elles connaissent ce système et les faillances du système.
Je suis tout à fait d'accord. Ce sont loin d'être des victimes et ce sont loin d'être des gens qui ne connaissent pas les choses. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes, c'est que ceux qui partent, ceux qui quittent leur pays, ce sont souvent les plus intelligents, les plus aptes et qui d'ailleurs inspirent beaucoup de respect et d'admiration aux gens qui restent et qui voudraient aussi les rejoindre. Mais cela étant, ils refusent pas un petit coup de main juridique, ils refusent pas un petit coup de main publicitaire. Et donc tout cela se passe en parfaite entente.
Une dernière question sur cette thématique-là, et Julien Drey l'a pointé tout de suite. Ce camp, ça fait 5 heures qu'il est mis en place, donc en plein cœur de la capitale, au pied du Conseil d'État. On sait très bien qu'il va être démantelé extrêmement rapidement, qu'il va peut-être avoir une aide, et tant mieux, diront certains, pour ces migrants sans papier, dont la justice n'a dit qu'ils n'étaient pas, dans un premier temps, des mineurs isolés. Donc ça veut dire que l'État peut agir rapidement quand ça touche le cœur de la capitale, quand on est à quelques centaines de mètres du Louvre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça prend tant de temps, Porte de la Chapelle ? Pourquoi à Ivry, là où ils sont logés depuis maintenant des semaines, on ne fait strictement rien, Julien Drey ? Qu'est-ce que ça veut dire de notre État ?
Bon, là, d'abord, vous avez... C'est... Les choses aériennes sont plus compliquées parce que c'est pas une, deux ou trois cents, c'est des centaines et des centaines avec un dispositif. Avec j'ai un peu tourné, il y a des guetteurs qui sont mis en avant pour vérifier les choses, etc. C'est vraiment une organisation. C'est pas de la spontanéité où chacun se met l'un à côté de l'autre. Alors le problème qui est posé pour l'ensemble des dispositifs parisiens, c'est que visiblement personne n'a envie de créer un centre d'accueil et d'hébergement. Et donc vous avez un problème de place. Donc à chaque fois la police vient et puis derrière il n'y a pas assez de place, ou alors ils s'échappent, il faut être honnête aussi, ils ne veulent pas aller dans ces lieux-là. Donc il faut revoir le dispositif et il faut aussi avoir des places. Il y a des lieux dans Paris, ou en région parisienne, qui pourraient accueillir ce genre de situation, qui pourraient être même des lieux contrôlés, hein, je veux dire.
Oui, enfin bon, le nombre est tellement maintenant important et que l'État est à l'os, l'État ne peut pas tout faire.
Oui, enfin là, ils vont faire vite, hein. Je vous préviens, on peut parier, si vous voulez, que ça ne va pas durer plus de 24 heures, grand maximum.
Mais ça ne sera pas durable, ça ne sera pas une solution pérenne, comme on dit.
Oui, mais là, on est dans un jeu de chat et la souris. Oui. Que la vérité, c'est quoi? C'est que ceux qui sont là posent un problème, sont les plus déterminés, et qu'ils espèrent que discrètement, le gouvernement va céder, et qu'il va y avoir des procédures de régularisation ou d'attribution de titres de séjour rapides. Malheureusement, peut-être.
Ne perdons pas de vue que dans un état de droit idéal, ces gens-là devraient être expulsés.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première thématique. On en a énormément de choses à traiter ce soir et on reviendra évidemment sur cette actualité dans Soir Info Week-end. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Julien André. Vous avez dit, mais ces migrants, ils connaissent le droit. Mais il n'y a pas que les migrants qui sont alertes sur le droit. Il y a maintenant les dealers. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il s'est passé à Saint-Ouen, puisque dans le viseur des délinquants, vous avez les étrangers sans papier, notamment les mineurs isolés. C'est-à-dire que certains dealers vont prendre sous leurs mains des mineurs isolés pour qu'ils s'en prennent aux forces de l'ordre, qu'ils fassent le guet, qu'ils travaillent dans les systèmes de deal. Pourquoi ? Parce que la difficulté avec la faille de notre droit et de notre justice, c'est qu'après, on ne peut pas ni les renvoyer, ni les maintenir sous contrôle. Regardez ce sujet de Augustin Donadieu. Ça s'est passé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est un cas isolé pour l'instant. Ça n'est pas généralisé. 4 fonctionnaires ont été blessés. Vous allez voir, le suspect n'a pas hésité à récidiver. Regardez ce sujet.
Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé, il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
Là où avant, quand on arrivait, en quelque part, c'était un peu une envolée de moineaux, là maintenant, les choses ont changé et on sent que ça va se finir en corps à corps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, ben, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque d'être blessé. Et forcément, psychologiquement, il faut tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leur point de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant, de jeunes adultes sans papiers sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers.
En fait, ils se sont rendus compte que plutôt qu'eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, la défense du point de deal.
Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les 4 agents blessés se sont vus attribuer entre 3 et 10 jours d'incapacité totale de travail.
Gilles-William, il y a tout dans ce sujet, la délinquance, des zones gardées par les dealers et le fait que désormais, ils vont en quelque sorte sous-traiter des mineurs isolés, des sans-papiers pour leur activité de deal.
Oui, enfin, il n'y a rien de très nouveau dans la technique d'utiliser, quand vous dealez, des mineurs. Là, la petite spécificité, c'est que ce sont apparemment des mineurs isolés, fraîchement débarqués, mais ça ne change rien. Mais il faut se rendre compte à quel point nous vivons dans un état en carton-pâte. Non, mais la réalité, c'est là, je veux dire, derrière on parlait du Conseil d'État, derrière les beaux murs majestueux du Conseil d'État, le droit, vous savez, n'a plus vraiment cours. Et d'ailleurs, c'est pas très gentil d'aller manifester devant le Conseil d'État, pardon d'avoir l'esprit d'escalier, parce que c'est sans doute l'une des institutions juridico-administratives qui a fait le plus pour le droit des sans-papiers.
Je viendrai.
Ce n'est pas totalement faux. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que William a raison sur une chose. Ce n'est pas nouveau. Je veux dire, dans les cités, auparavant, il y avait ce qu'on appelait les chauffeurs. Les chauffeurs, c'était ceux qui étaient chargés de faire le guet. Et en général, c'était des mineurs, qui étaient payés d'ailleurs un peu plus que ça, même souvent, pour 24
heures. C'est quoi le tarif de la fédération?
Je vous le donnerai en privé, si vous avez des candidats. Bon, non, mais je veux dire, c'était quelque chose qui était payé jusqu'à 500 euros parfois dans certaines cités. Donc c'est pas rien. Et ça renvoie au drame social dans lequel on est. Vous avez des jeunes qui ont l'impression, des enfants dans des écoles qui ont l'impression que de toute manière, tout ça, il n'y a rien pour eux. Tout ça, on leur a expliqué en plus que c'était pas bien vu, parce que, etc. Vous connaissez tout le discours. Et donc, bon, bah, la tentation est forte. Voilà. Alors il y a des familles qui laissent faire, il y en a d'autres qui ne laissent pas faire. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le trafic de stupéfiants, si on ne prend pas la mesure de ce à quoi on s'affronte, on sera toujours en situation difficile. Parce que vous avez maintenant des gangs qui sont très organisés, très riches. C'est-à-dire, ce n'est pas comme avant, où vous avez des dealers qui avaient quelques dizaines de milliers d'euros qui traînaient dans des valises et qu'on arrivait à prendre de temps en temps par des perquisitions. Aujourd'hui, ils sont très organisés. Ils sont dans l'investissement. C'est-à-dire, si vous avez des réseaux de dealers qui, aujourd'hui, investissent, achètent des commerces, c'est plus simplement les blanchisseuses comme avant. Voilà. Et ils ont y compris des dispositifs juridiques. Ils ont réussi à avoir un certain nombre de conseillers, etc. Donc, tout ça est très étudié. Et en plus, vous avez une guerre de territoire que je voudrais pointer, parce qu'à Saint-Ouen, ce n'est pas un hasard si ça se passe comme ça. Saint-Ouen, il y a une nouvelle municipalité qui est arrivée, la ville est en pleine mutation. C'était une ville où il y avait d'énormes trafics de stupéfiants. Elle est en pleine mutation. Il y a une équipe municipale qui est plus jeune, qui a décidé, que je connais un peu, qui est sympathique, qui a décidé de faire, je dirais, changer sa ville. Et effectivement, elle se heurte à des gros réseaux de dealers. Ils ont marqué les points, mais il y a des résistances. C'est un combat de terrain. Hein.
Un combat de terrain qui dure depuis des années. Les plans anti-drogue à Saint-Ouen, on peut les compter sur... tous les doigts de
Oui, mais comme la ville est en pleine mutation sociologique, c'est vrai, parce que c'est une des villes les plus gagnantes de la préparation des Jeux Olympiques, où il y a des gros investissements qui ont été faits, il y a une gentrification, comme on dit, qui est en cours. Bon, vous avez un certain nombre de réseaux de dealers qui sont de plus en plus mal, parce qu'ils n'ont plus les territoires de repli qu'ils avaient auparavant.
Messieurs, l'électricité, la France, ancienne grande puissance nucléaire, va-t-elle devenir une puissance de la bougie? L'hiver arrive et le risque de coupure d'électricité se dessine. Se prépare au pire, bien évidemment, ça pourrait toucher 60% du territoire. Écoutez Jordan Bardella ce matin, justement, sur les fautifs. À qui la faute?
Je veux dire, on est en France en 2022, on est officiellement la 7e puissance mondiale et on est en train de nous expliquer qu'on va potentiellement couper le générateur d'électricité, que des écoles sont amenées à fermer, que les systèmes d'alarme dans les bâtiments publics ne fonctionneront plus, que les réseaux de télécommunications seront mis à l'arrêt et que les feux de signalisation pourront également s'arrêter. Je pense que Emmanuel Macron et Mme Borne devraient s'excuser. Parce que en organisant le sabordage de notre filière nucléaire depuis maintenant 5 à 10 ans, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie avant, ils ont mis la France aujourd'hui dans une situation de précarité énergétique qui fait davantage penser au tiers-monde qu'à des pays développés.
La France est tiers-mondisée sur cette notion-là, sur l'électricité, sur le nucléaire. Ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron?
C'est en partie, oui. C'est en partie sa responsabilité.
L'autre partie, c'est qui? François Hollande?
Oui, précédemment, je suis désolé. Mais alors, clairement, on a une industrie déjà qui est en déclin accéléré. On avait le fleuron de l'industrie française, c'était précisément l'industrie nucléaire. Elle avait cet avantage aussi d'être la moins carbonée possible. Et uniquement pour des raisons idéologiques et un peu politiques, pour faire plaisir à M. Hulot, pour faire plaisir à Greenpeace, eh bien, on a réellement saboté cette industrie-là. Donc quand je vois, comme hier, Mme Borne prendre un air important pour nous expliquer que ça va être, il faut être fort, il faut s'armer de patience, mais on va passer l'hiver, vous verrez. Alors que je la revois avec dans l'allégresse, dans la fierté expliquée, avec une sorte de jubilation, qu'elle ferme Fessenheim et que peu à peu, on va en finir avec le nucléaire. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère? Réellement, il y a soit du sabotage, soit un côté suicidaire sur le plan idéologique,
Mais alors, à leur décharge, je voudrais quand même plaider à leur décharge, quand ils ont annoncé ça, force est de constater qu'à part des gens qu'on n'écoutait pas comme votre serviteur, personne n'a dit quoi que ce soit. Je ne me souviens pas que la droite française se soit spécialement levée pour dire « mais vous sabotez l'industrie nucléaire française ». Ça n'est pas vrai.
C'est un débat en 2012, avant un débat d'entre-deux-tours.
Écoutez-moi, quand
la question s'est posée,
non mais oui.
Pas ressortir les
Navarre. Enfin, je veux dire que quand Mme Borne a prononcé ce discours fâcheusement historique, je ne me souviens pas qu'elle ait été spécialement critiquée, c'est tout ce que je veux dire, à sa décharge. Nucléaire, si j'ose dire.
Alors, il y a plusieurs choses, parce que après, je veux dire, on peut faire la liste des culpabilités. Juste une remarque, c'est pas les gouvernements socialistes qui ont décidé de sortir du nucléaire totalement. Le gouvernement de François Hollande, on peut lui reprocher des tas de choses sur le plan social, mais sur cette question, elle a tenu bon. Il a dit, nous allons faire un mixte énergétique, mais il est hors de question de sortir du nucléaire. La seule centrale qui a été en question, c'est celle de Fessenheim, parce qu'elle était vieille et que le maintien en état de Fessenheim était problématique en termes de dépenses. Le problème qui s'est posé par la suite, c'est que vous avez eu le Covid, que vous avez eu des fissures qui sont apparues dans les centrales nucléaires et qu'on n'a pas réparé ces fissures pendant le Covid et qu'on a mis du temps à rattraper ça parce qu'il y a des décisions qui sont pas prises, y compris à EDF, parce qu'il y a tout un problème à EDF, parce qu'on pourrait faire travailler des équipes en les payant mieux pour colmater ces fissures 24 heures sur 24, donc on a pris du retard et c'est ça qu'on va payer. C'est pas la guerre, hein. Donc on paye. C'est ce retard-là qui fait que nos centrales ne seront pas totalement opérationnelles comme elles devraient l'être là-dessus, comme elles devraient l'être. Voilà la question qui est posée aujourd'hui, avec, si vous voulez, un problème qui, d'après moi, à un moment donné ou à un autre, sera un problème démocratique, c'est la manière dont EDF fonctionne. Voilà. La manière dont EDF, un jour fait ça, un jour fait ci, et l'opacité. Malheureusement, de toutes ces décisions.
Donc vous voulez réagir, Gilles.
Mais il y a telle responsabilité depuis Mme Lauvergeon, il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je voudrais dire, à part.
Dans le nucléaire, Mme Lauvergeon, elle n'a rien fait, elle n'a pas de.
En matière énergétique. À part ça, sur le plan idéologique, très sincèrement, il faut surtout pas confier l'écologie aux écologistes, enfin, à ceux qui se prétendent mensongèrement écologiste, qui s'occupe de tout sauf de la véritable écologie. Et d'une certaine manière, il faut voir la responsabilité de l'Allemagne dans cette histoire-là. La responsabilité de l'Allemagne, elle est encore pire, si j'ose dire, que de la responsabilité de la France. Ils ont sabordé leur nucléaire. Ils nous carbonent.
Bah on l'a sabordé aussi, notre nucléaire.
Ils nous carbonent au charbon. Ils nous empestent avec leur charbon. Ils se mettent dans la main des autres pour acheter le gaz. Il est beau, le couple franco-allemand en matière énergétique. C'est formidable. Alors,
deux choses. D'abord, on n'a pas sabordé notre pacte nucléaire. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a une centrale qui est en cause, c'est Fessenheim. Les autres, on ne les a pas fermées. Là, il y avait une décision d'Emmanuel Macron qui a été prise au début de son quinquennat, qui est premier quinquennat, qui effectivement était sous la pression de ce qui se passait en Allemagne et certainement d'une valorisation du courant écolo, c'est-à-dire on sort du nucléaire totalement, etc. Bon, mais il faut pas non plus considérer qu'il y a eu des coups de volant tels que voilà tout a été abandonné. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses. Malgré tout, moi je suis pour un mix énergétique, mais je maintiens quand même qu'il faut faire attention avec le nucléaire et que cette folie qui nous a précipité dans un premier temps à faire du tout nucléaire et qui n'a pas permis qu'on construise des énergies alternatives comme il le fallait, fait aujourd'hui qu'on est totalement dépendant du nucléaire. Là est l'erreur du choix.
Voilà. Il n'y avait pas sortie du nucléaire, mais c'était de passer de 75 à
50%. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un petit sourire en coin.
J'ai comme
l'élève
un sourire,
comme l'élève qui dit au professeur que toujours tu m'intéresses. Je m'excuse de vous le dire. Elliot, 50%, moi, je suis.
Non, c'est vrai. Vous avez raison. On n'a pas fermé immédiatement toutes les usines nucléaires. On a organisé le déclin, on a organisé le manque de préparation des centrales en cours. Quant aux énergies renouvelables, je demande à voir les éoliennes en question. Il en faut 100 fois plus pour remplacer une centrale nucléaire. Elles enlaidissent comme ça n'est pas possible, le paysage, elle ne marche que quand le temps est venteux. La voiture électrique. La voiture électrique. On nous parle maintenant de la voiture électrique. Construire une voiture électrique est encore plus pénalisant sur le plan du carbone.
C'est pour ça, Gilles William, que je maintiens que pris par des modes. On n'a pas travaillé comme il le fallait.
C'est exactement ce que je veux dire.
Je pense que, par exemple, la mode éolienne, puisqu'il y a eu une mode éolienne aujourd'hui, il y a un retour de bâton parce que tout le monde rend compte que c'est pas. Mais la construction d'un mix énergétique, c'est pas le nucléaire contre les éoliennes. On est en retard sur l'hydroélectrique, énorme retard sur l'hydroélectrique, alors qu'il y a un potentiel. On est en retard sur le solaire, alors que le solaire est énorme. Il suffirait de courir. Je vous donne un exemple. On courirait tous les toits de Paris. Avec du solaire, on arriverait à avoir une ville complètement indépendante. Bon, et sur l'énergie de la mer.
La pub, les amis.
Sur l'énergie de la
publicité.
Et sur l'énergie de la mer, on a ouvert il y a un an, juste la première.
Vous pouvez respecter la publicité, monsieur.
La publicité, mais il ne respecte pas. Et j'ai le sourire. Deux raisons pour lesquelles j'ai le sourire. Un, parce que je suis content d'être avec vous.
Parfaitement.
Et la seconde, vous savez pourquoi? Parce qu'après la publicité, on va parler des grèves. Grève SNCF, notamment. Et j'ai entendu le discours de Gilles William Golnadel hier soir et je me disais
mais j'espère qu'il vous a
je suis content car j'ai hâte de voir ce que va lui répondre Julien Drey.
Mais j'ose espérer que vous l'avez approuvé ce discours.
Je ne dis rien, moi je n'approuve rien, je passe. Je passe.
Bien sûr, on est neutre. On est neutre. C'est tellement plus simple.
La publicité. Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de Ça se dispute, toujours avec Gilles William Golnadel et Julien Drey. Le point sur l'information. Et on va parler des grèves. La SNCF, est-ce que c'est une bonne idée ou non de faire grève? On va voir ça dans un instant. Le point sur l'info.
Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt a été ouverte contre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une enquête réalisée par le parquet national financier après un signalement d'élus. Il soupçonne Valérie Pécresse d'avoir détenu des actions chez l'entreprise Alstom, alors qu'elle préside l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. Après les propositions de pourparlers entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine, Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, lui a répondu, comme vous pouvez le voir. Le président de la Fédération de Russie a toujours été et reste ouvert aux pourparlers pour garantir nos intérêts. D'ailleurs, qu'a dit M. Biden? Il a dit que des pourparlers ne sont possibles que si Poutine quitte d'abord l'Ukraine. Sans condition, l'opération militaire spéciale se poursuit. Et nouvelle surprise dans cette Coupe du Monde, la Corée du Sud a battu le Portugal 2-1. Les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, mais impossible de connaître leur adversaire pour le moment. Brésil, Suisse, Cameroun ou Serbie, tout est encore possible. Résultat ce soir à 20h.
Et dingue. Voilà pour le point sur l'information. Trop, c'est trop, les Français n'en peuvent plus. À l'approche des fêtes, le bras de fer commence à la SNCF et c'est à chaque année la même rengaine, la même histoire. Nouveau week-end de grève. Cette fois, ce sont les contrôleurs qui se sont mobilisés. Ils réclament une augmentation de leur prime de travail et une meilleure mobilité professionnelle. Résultat, 4 trains sur 10 sur l'ensemble du territoire jusqu'à lundi. Dans le détail, dans le nord, vous en avez 1 sur 2. Dans l'est, 1 sur 3. L'Atlantique, 1 sur 4. Sud, 1 sur 3. Et Ouigo, 1 sur 4. Donc on est allé poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez aux Français? Les réactions au micro de CNews.
Oui. J'ai arrivé en voyage en avion et je dois prendre un train pour Poitiers. Il n'y a pas de train. J'attends, je prends un taxi pour aller à un hôtel puis je vois.
Je devais voyager demain et j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé 56 euros de plus.
Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça pénalise les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal.
C'est toujours la même histoire à l'approche des fêtes. Vous avez des grèves et c'est les Français qui sont pris en otage. Votre regard sur ces grèves, cher William Golnadel?
C'est toujours le même regard. Hein. C'est un regard écœuré, courroucé. Par un hasard cosmique, ça tombe le jour de Noël. C'est vraiment une sorte de plaisir sadique de pénaliser les usagers d'un transport public en position de monopole. Et une des raisons, une des choses qui mérite quand même, c'est la résignation de gens qui finalement tellement habitués qu'ils ont été décérébrés. Ils ont l'habitude. Hein. Les Français ont été dressés d'une certaine manière, éduqués à ce que des syndicats qui ne sont absolument pas représentatifs, hein, utilisent un monopole pour pouvoir dicter d'une certaine manière la loi aux usagers. Donc, pardon, sur le plan moral, je suis assez écœuré. Alors maintenant, ma position, elle est depuis toujours, c'est une spécificité française. Il y a beaucoup de pays qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un droit de grève lorsque un service public est en position de monopole. C'est en France comme ça, et donc, je veux dire quelque chose, je n'ai pas une chance sur 1000 un jour de mon vivant de voir cette chose-là se réaliser, mais je serais effectivement, je suis d'avis qu'on ne devrait pas avoir le droit de grève dans les services publics en position de monopole, comme cela existe dans d'autres pays. Alors, il y a des pays où c'est un peu différent. Il y avait eu une grève des contrôleurs du ciel aux États-Unis, et M. Reagan avait licencié, je crois, quelque chose comme 10 000 grévistes. Donc, ouais, voilà. Donc, je suis un peu dans la nostalgie de M. Reagan. Voilà.
Je crois qu'il y avait eu plusieurs accidents aériens par la suite, parce qu'on avait embauché n'importe qui pour remplacer les contrôleurs aériens. Et je ne suis pas sûr que dans l'histoire des États-Unis, ça reste un moment fameux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je veux bien qu'on s'en prenne aux causes, aux mots, mais il faut s'en prendre aussi aux causes, alors. Pourquoi les négociations salariales ne commencent que la semaine prochaine? Pourquoi la direction de la RATP a attendu, alors que les signes étaient évidents? Le métier de contrôleur n'est pas un métier facile. Vous savez, comme moi, d'abord parce que pour la plupart, sur les grandes lignes, ils ne dorment pas chez eux, ils ont des horaires très compliqués, ils ne sont pas très bien accueillis par le public en général. Donc ce n'est pas un métier facile, ils ne gagnent pas des 1000 et des 100. Bon, donc ils ont demandé une revalorisation salariale, et pourquoi avoir attendu? Donc pourquoi ne taper que sur les grévistes et pas se dire, mais qu'est-ce que font les directions d'entreprises publiques qui devraient justement être exemplaires sur le plan de la négociation sociale et salariale? Si elles étaient exemplaires et qu'à partir de là, les syndicats continuaient, je dirais bon, d'accord, mais je ne vais pas jeter la pierre aux syndicats systématiquement et esquiver la question de la responsabilité des directions d'entreprise. D'autant que c'est ça qui est scandaleux, c'est que les directions d'entreprise, elles pensent toujours qu'elles vont pouvoir esquiver la négociation parce que la grève va être impopulaire et que comme elle va être impopulaire, elles vont pouvoir esquiver cette responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées, je m'excuse de le dire.
Enfin, à supposer même que j'exagère.
Je ne l'ai pas encore dit.
Non, mais à supposer même, par pure hypothèse intellectuelle, hardie, selon moi, que j'ai tort, rien. Franchement, Julien, rien.
Mettez-vous dans la peau des contrôleurs. Ils tirent la sonnette d'alarme. Oui. Ils vont voir leur direction. Ils leur disent on n'est pas payé. On est mal payé. On n'est pas payé. Nos conditions de travail se sont vraiment détériorées. Oui. Parce que les relations humaines se sont détériorées, vous savez. Il faudrait quand même que vous pensiez à nous et que la direction a dit il n'y a rien à voir, circuler, c'est le cas de le dire. À un moment donné, quand vous êtes dos au mur, vous reste que ça.
Je veux bien faire l'effort.
Ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de grève nulle part.
Je veux bien faire l'effort surhumain de me mettre dans la peau d'un syndicaliste de Sudrail.
C'est pas qu'un syndicaliste.
Mais
sinon, qu'un syndicaliste, il n'y aurait pas une paralysie comme il y a.
Rien.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec les syndicats parce qu'ils ont
raison. Rien à mes yeux ne justifie qu'on puisse faire grève le jour de Noël, séparé.
On n'y est pas encore.
Non, d'accord, mais cette perspective. Faire notre grève le jour de Noël, séparer les familles déjà séparées, etc. Il devrait y avoir, il me semble, quelque part une trêve ce jour-là, mais bon, peut-être que je dois rêver.
Non mais Gilles William, on n'y est pas encore sur le jour de Noël. On est là dans une situation...
C'est un chantage alors, voilà. C'est un chantage à la grève au jour de Noël.
Oui, c'est un... Okay, mais, alors après, on peut discuter sur les moyens. Peut-être qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus populaire, c'est-à-dire dire, nous, on sera là, mais on ne contrôlera plus les passagers. Comme ça, vous serez devant vos responsabilités. Peut-être que c'est à eux de discuter.
Ça montre le délitement aussi de
Mais je suis d'accord avec vous, ça montre le délitement d'un dialogue social qui n'existe pas dans ce pays,
générale,
malgré...
Ça ressemble à l'état du pays.
Oui, je suis d'accord. C'est un pays qui ne sait pas pratiquer le dialogue social comme il le faudrait, en amont, comme le font les pays scandinaves, comme le font l'Allemagne. On n'a pas ce respect du dialogue social qui doit prendre en considération toutes les situations.
Vous voyez, on aborde les migrants devant le Conseil d'État, les mineurs qui dealent, et puis les syndicalistes
on va avoir un nouveau dirigeant,
Jean Castex.
Voilà.
J'ai une surprise, on va l'entendre dans cette émission.
Peut-être
c'est sur un autre thème.
C'est pas le pire.
J'ai une surprise. Vraiment, vous allez entendre Jean Castex. Vous l'avez sûrement oublié. Ce sera une petite piqûre de rappel.
Pas du tout, j'ai pas oublié.
Jean Castex. Depuis 1947, il ne se passe pas une année sans grève à la SNCF. Vous parliez des conditions financières, c'est vrai. En milieu de carrière, c'est environ 2400 euros bruts par mois, 3000 euros bruts par mois en fin de carrière. Et les conditions, elles sont compliquées. Horaires décalés, irréguliers. Conducteurs comme contrôleurs sont amenés à passer 8 à 12 nuits par mois loin de chez eux, dormant à l'hôtel. Et pour être contrôleur, il faut évidemment avoir du sang-froid parce qu'il y a des agressions et des violences. Maintenant, de là à faire grève le soir de Noël, ce qui n'est pas encore le cas, c'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 trains sur 10 qui peuvent circuler tout un week-end à l'approche des fêtes.
Est-ce que je peux vous faire
remarquer ? Je signale au passage qu'il y a des lois qui auraient permis à la direction de faire des réquisitions, elle ne l'a pas faite.
1947, pas une année sans grève.
Mais il y a des lois qui ont été votées. Qui, d'abord, ce n'est pas vrai. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de grève à la SNCF. Ça, c'est des raccourcis. Je vais chercher, mais je vais trouver.
C'est possible que je me trompe.
Remarquez, avec tout le respect que j'ai pour vous deux, qu'il y a des policiers aussi qui vivent dans des conditions déplorables, qui sont séparés de leur famille, eh bien, les policiers n'ont pas le droit de faire grève.
Et on a dit une bêtise, Jean Castex, c'est pas SNCF, c'est RATP. Deux choses différentes, mais il y a aussi des grèves à la RATP.
Moi, je n'ai rien dit, monsieur.
Oui, enfin, vous avez acquiescé. Le Covid. Tiens, le Covid. Il ne manquait plus que ça. Le Covid refait surface. La 9e vague est bien là. 55 000 cas positifs recensés quotidiennement. Le taux d'incidence, 500 pour 100 000 habitants. C'est en hausse, hein, de 40%.
Je suis en train de me souvenir, la RATP, il n'y avait pas à la direction de la RATP une députée qui aujourd'hui joue un rôle très important.
Ah, possiblement.
On va peut-être lui demander comment elle a géré socialement.
On va essayer de la contacter. Elisabeth Borne. Vous le savez que Elisabeth Borne appelle pour l'instant à porter le masque dans les transports. C'est un appel à la responsabilité, selon elle. Pour l'instant, il n'y a pas de contrainte, mais le gouvernement est en train de plancher là-dessus, en disant on va peut-être le rendre obligatoire. Écoutez les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent, le masque obligatoire?
Moi, je me protège parce que j'ai pas d'amygdale. Et les gens touchent beaucoup, il y a beaucoup de rhumes, donc on préfère en mettre.
Si tout le monde peut le porter, pourquoi pas ?
Moi, j'aime pas le masque, j'aime pas du tout. Ça sert pas à rien, mais moi, j'aime pas, ça m'oppresse, j'aime pas du tout.
Personne le met. Après, je pense que si jamais ils disent etc. Aux infos ou quoi, je pense que les gens qui vont le mettre.
Je trouve que de toute façon, on chope quand même le Covid. Il n'y a pas besoin d'être autant, très restrictif. Et de toute façon, il va circuler, tout le monde va l'avoir. Enfin, on l'a déjà tous eu, moi je l'ai déjà eu deux fois. Covid, ça commence à être un peu comme la grippe, comme d'autres choses. Donc non, je suis contre.
William Goldnadel, dans les transports en commun, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? Est-ce que ce n'est pas finalement à la responsabilité de chacun de se dire si j'ai un risque, je porte le masque, si j'en ai pas, je ne le porte pas.
Ce que je vais vous dire, je vais être impopulaire chez tout le monde, hein, mais c'est ma vérité. Celui qui vous parle, bien que qu'il répugne à parler de lui-même, s'est vacciné contre la grippe avant-hier et se vaccinera contre le Covid mardi prochain. D'accord ?
Il vaut mieux attendre une semaine.
Donc je ne suis pas un anti-vax, ça sera la quatrième fois. Et pourtant, celui qui vous parle défend la liberté. Je suis l'avocat de François et je défends la liberté de François de dire, par exemple, qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu des problèmes avec le vaccin. D'accord ? Personne n'aime ce... D'abord, il faut comprendre la difficulté pour un gouvernant sous le Covid de pouvoir gouverner. C'est horrible parce que vous avez des demandes contradictoires de la part d'une opinion qui est souvent voire versatile. Ou si vous laissez faire, vous allez avoir le sort de Trump ou de Bolsonaro. Et si jamais vous voulez prendre des mesures un peu autoritaires, vous allez passer pour un liberticide. C'est pas facile. J'ai vu un truc sur Johnson à Canal+, je vous le recommande. Le type, il était droit dans ses bottes, mais quand ça a commencé, il voulait rien faire, mais quand il a commencé à avoir des problèmes dans l'hôpital, je peux vous dire que, comme tout le monde, il a confiné. Alors maintenant, pour répondre à... Donc c'est compliqué, les choses. Écoutez, franchement, autant je trouve ça totalement ridicule. Totalement ridicule. L'obligation du port, comme on l'a fait...
En extérieur.
À l'extérieur, totalement ridicule. Dans un endroit clos comme le métro, je pense que dans la hiérarchie de l'horreur liberticide, on a fait pire. Mais vous ayant dit cela, On a le droit quand même, on a quand même fait beaucoup d'erreurs en France, hein. Je veux pas être l'avocat totalement du gouvernement Véran sur les masques, sur les vaccins et sur l'ouverture des frontières de madame Buzyn à tous les Chinois de Wuhan, alors que la France n'était pas encore touchée. On a quand même été particulièrement brillants.
Le masque. Et après, ça sera la surprise. Alors,
d'abord, j'ai deux surprises. Je rappelle à tout le monde qu'on porte pas le masque pour se protéger. On porte le masque pour éviter de contaminer. Voilà, les autres. Et donc, c'est une responsabilité par rapport aux autres, le port du masque. C'est une question qui est simple, c'est que vous avez des personnes qui sont plus sensibles que d'autres et qui sont qui ont des pathologies lourdes, et le fait d'attraper le Covid conduit à des morts. D'accord. Et conduit encore à des morts dans les hôpitaux. J'étais en train de discuter hier avec
400 cette semaine.
J'étais en train de discuter hier avec une chef de service de la Pitié-Salpêtrière qui me disait qu'elle avait encore eu cette semaine 2 morts de gens qui avaient des pathologies lourdes, mais qui ont attrapé le Covid et qu'elle n'a pas pu rattraper. Et elle était désespérée, parce qu'elle les a envoyés en urgence, voilà, et quand elle a téléphoné le lendemain, voilà. Donc le port du masque, c'est pas quelque chose par rapport à soi. Évidemment, moi, j'aime pas le masque. Je vais être honnête avec vous.
Personne n'aime.
Moi, j'aime pas ça. Quand je peux éviter de le porter, j'évite de le porter. Mais j'ai aussi le sens des responsabilités par rapport aux autres, par rapport à ceux qui m'entourent. Voilà. Alors après, sur les erreurs qui ont été faites sur cette histoire de Covid, oui. Mais je pense qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs d'ailleurs dans la communication souvent. On n'a pas dit la vérité. Et je pense qu'on a pris nos concitoyens pour des enfants de cœur et que ça continue.
On y vient.
Encore. C'est-à-dire qu'on dit pas, voilà, on sait pas bien. Donc par précaution, on préfère vous dire de le faire comme ça, plutôt que de le faire comme si. Voilà. Et je pense que c'est une erreur dans le rapport à la population que de ne pas avouer les choses. Puis, alors après, on peut faire comme la Chine.
Évidemment. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. Hein. On en parlera ce week-end dans cette dispute. Parce que les mesures sont en train de s'assouplir dans certaines villes en Chine.
Ce sont au bord d'une révolte populaire.
Deux surprises.
Qui met en cause pas simplement la question médicale.
Bien sûr. 3 minutes, on a 2 surprises. La première, parce que comme on parle du Covid, rappelez-vous, il y a deux ans, on est donc en décembre 2020. Si mes calculs sont bons, Jean Castex est alors Premier ministre et il annonce les mesures à prendre pour Noël parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. On était avec une limitation de 6 à table. On réfléchissait à comment fêter Noël en mettant les grands-parents dans une pièce et les enfants dans une autre. Voilà comment on réfléchissait du côté du gouvernement. Jean Castex est désormais le patron de la RATP.
Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. C'est un moment de rassemblement familial où peuvent se retrouver toutes les générations, enfants, parents, grands-parents, un moment où se forgent les premiers grands souvenirs des plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée la semaine dernière, pas plus de 6 adultes à la fois.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir à ça? Si l'épidémie galope, on revienne à ce Noël, pas plus de 6 à table à Noël.
Tout est possible.
Tout est possible. Pourquoi pas, d'ailleurs, pourquoi pas.
Tout est possible.
Non, j'y crois pas. Bon. Je crois qu'on est. Je pense qu'on a plutôt une maîtrise du virus. On a des vaccins, il faut être honnête, qui sont efficaces et qu'il faut continuer à faire, quoi que certains antivax nous disent, parce que les cas sont multiples de gens qui effectivement attrapent le Covid, mais pas dans des formes sévères. Donc c'est vrai que ça banalise peut-être, mais c'est aussi grâce à l'efficacité et à l'immunité collective qui découle de l'utilisation du vaccin. Voilà. Alors il y a un variant dont on ne sait pas bien aujourd'hui.
Mais on va en parler avec Martin Blachier ce soir,
etc. Mais je suis pas trop inquiet, même si je comprends que les gouvernements, ils en rajoutent un peu parce qu'ils ont besoin d'en rajouter.
1 minute 20, la dernière surprise, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, on n'a plus le temps de parler du Covid, mais sachez qu'on en parlera longuement dans Soir Info Week-end. Martin Blachier sera notre invité à 23h. Anne Hidalgo, alors on ne compte plus le nombre de gaffes de la maire. Non, c'est pas la sécurité, l'insalubrité, les taxes dans la capitale. Eh bien, c'est le vélo, ça s'est passé cette semaine. Très peu de personnes en ont parlé lors du forum d'investissement pour Kiev organisé à Bruxelles. Anne Hidalgo a donné quelques leçons à Vladimir Klitschko. Vous savez, c'est le frère du maire de Kiev et qui est également conseiller du maire. Elle explique qu'on faut quand même développer le vélo, notamment à Kiev. Je rappelle juste qu'on est en période de guerre. Écoutez Anne Hidalgo dans un anglais parfait.
Yes, we need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help, of course. Our cities Paris, maybe in the transformation of the infrastructure to go from car to bicycle is very interesting because it's a new model, not new model, because Copenhagen and another city as in Europe are very committed with these policies and were example for me.
Allez, en un mot, en 30 secondes chacun.
J'ai écrit à M. Klitschko, j'ai beaucoup d'admiration pour ce boxeur.
C'est sans froid.
Ah, mais non, c'est
oui, si, les deux
sont des boxeurs exceptionnels. Exceptionnels.
Je peux vous dire, je vais pas lui dire qu'il est pas boxeur.
J'adore. Ah non, vraiment. J'ai dit, non, mais écoute, ne fais pas attention, c'est une réflexion d'une bobo qui ne représente plus grand chose. Ni en France, qu'elle a fait 1,25%, ni à Paris, où elle a eu, je crois, quelque chose comme 15 000 voix. Donc, ça n'est pas très important, mais je crois qu'il s'en était aperçu lui-même, avoir son air un peu embarrassé.
Alors, je crois que c'est 1,75.
Alors, je retire ce que j'ai dit. Alors, ça change tout.
Julien, dans 20 secondes, parce qu'on est en retard, et juste après, c'est Julien Pasquier.
Je ne vais pas lui jeter la pierre sur son anglais, parce que je pense qu'il ne parle pas beaucoup mieux.
Malheureusement, moi non plus.
Ce qui est la preuve que je n'ai pas été un bon élève et que, par ailleurs, l'école ne m'a pas beaucoup aidé dans la matière.
Ça y est, c'est la faute de l'école.
C'est pour ça que je voulais finir. Je voulais finir là-dessus. Maintenant, je veux dire, faut pas non plus... J'ai vu cette séquence apparaître sur la toile. Elle est sortie peut-être d'un contexte. Ce qu'elle dit quoi ? Elle dit, si vous reconstruisez... Du point de vue des intentions, c'est pas une mauvaise intention. C'est-à-dire, si vous reconstruisez la ville, peut-être que cette fois-ci, on peut faire des vélos après, etc. Bon, alors c'est mal situé, etc. C'est pour ça qu'il faut pas trop en faire quand même.
Non plus. C'est pour ça qu'on en a fait exactement 30
C'était
secondes.
C'était la semaine de gentillesse de Monsieur Drey-Julien.
Oui. Merci à tous les deux.
Il faut
les
être
amis.
Gentil un peu.
On revient évidemment à 22h pour Soir Info Week-end. Juste là, dans un instant, c'est l'ami Julien Pasquier pour l'heure des Pro 2. Vous pouvez revoir cette émission si vous avez manqué la première partie, par exemple, qui était vraiment intéressante, sur cnews.fr. Je suis heureux de vous retrouver. Merci à tous les deux. Voilà une belle émission. Vous aurez des cadeaux peut-être.
J'espère sous le sapin. Bien.
Sous le sapin.
Le plus tôt sera le mieux.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.